Les événements qui devaient infliger le coup mortel à Macondo commençaient juste à se préciser quand on amena à la maison le fils de Memme Buendia. La situation générale était alors si aléatoire que personne n'avait la tête à s'occuper de scandales privés. Si bien que Fernanda put profiter de ce climat favorable pour tenir l'enfant caché comme s'il n'avait jamais existé. Elle fut bien forcée de l'accepter, les circonstances dans lesquelles il lui fut apporté rendant impossible son refus. Elle fut forcée de le supporter contre son gré pour le restant de ses jours à cause de cette minute de vérité où elle n'eut pas le courage de mettre à exécution ce qu'elle avait secrètement résolu, de le noyer dans le bassin. Elle le tint enfermé dans l'ancien atelier du colonel Aureliano Buendia. Elle réussit à convaincre Sainte-Sophie de la Piété qu'elle l'avait trouvé dérivant dans une corbeille. Ursula devait mourir sans connaître ses origines. La petite Amaranta Ursula, qui pénétra un jour dans l'atelier et trouva Fernanda en train de nourrir l'enfant, crut elle aussi à la version de la corbeille flottante. Aureliano le second, qui avait définitivement pris le large vis-à-vis de son épouse, à cause du rôle absurde qu'elle avait joué dans la tragédie de Memme, ne connut l'existence de son petit-fils que 3 ans après son arrivée à la maison, l'enfant ayant profité d'un moment de distraction de Fernanda pour échapper à sa captivité et se montrer sous la véranda pendant une fraction de seconde, complètement nu, les cheveux en broussailles, arborant un sexe impressionnant semblable aux excroissances charnues d'un bec de dindon, comme s'il ne se fût pas agi d'un être humain, mais de la définition encyclopédique de l'anthropophage. Fernanda ne s'attendait pas à ce mauvais tour de son incorrigible destin. L'enfant fut comme la résurgence d'une honte qu'elle croyait avoir extirpée définitivement de la maison. On n'avait pas plutôt emporté Mauricio Babylonia avec son épine dorsale fracturée que Fernanda avait déjà imaginé jusqu'au moindre détail d'un plan destiné à laver toute trace de l'ignominie. Sans demander l'avis de son mari, elle avait fait ses bagages dès le lendemain, rangé dans une petite valise les 3 toilettes de rechange dont sa fille pouvait avoir besoin, et était allée chercher cette dernière dans sa chambre une demi-heure avant l'arrivée du train. « Allons-y, Renata !» lui dit-elle. Elle ne lui fournit aucune explication. Mémé, pour sa part, n'en attendait aucune et ne souhaitait pas qu'elle lui en donnât. Non seulement elle ignorait leur destination, mais il lui aurait été parfaitement égal de se voir conduite à l'abattoir. Elle n'avait pas rouvert la bouche et ne devait plus prononcer un mot de toute sa vie, depuis le moment où elle avait entendu le coup de feu dans l'arrière-cour et simultanément le hurlement de douleur de Mauricio Babylonia. Lorsque sa mère lui ordonna de sortir de sa chambre, elle ne prit le soin ni de se peigner, ni de se laver le visage, et monta dans le train comme une somnambule, sans même remarquer les papillons jaunes qui continuaient de l'accompagner partout. Fernanda ne sut et ne se donna jamais la peine de vérifier si c'était volontairement qu'elle restait muette comme une tombe, ou si elle était devenue incapable de proférer un mot sous le coup de la tragédie. Memme fut à peine consciente du voyage qu'elle effectua à travers l'ancienne région enchantée. Elle ne vit pas les interminables et ombrageuses bananeraies de part et d'autre de la voie ferrée. Elle ne vit pas passer les maisons blanches des étrangers, ni leurs jardins rendus arides par la poussière et la chaleur, ni les femmes en shorts et chemises à raies bleues qui jouaient aux cartes sous les porches. Elle ne vit pas les charrettes tirées par les bœufs et chargées de régime sur les chemins poussiéreux. Elle ne vit pas les jeunes filles bondir comme des aloses dans les transparentes rivières pour laisser aux passagers du train le cuisant regret de leurs seins magnifiques, ni les misérables baraques bariolées des travailleurs parmi lesquels voltaient les papillons jaunes de Mauricio Babylonia, et sur le seuil desquels on voyait des enfants verts et hâves assis sur leurs peaux et des femmes enceintes qui criaient des énormités au passage du train. Cette vision fugitive, dont elle se faisait une fête lorsqu'elle revenait du collège, traversa le cœur de Memme sans l'éveiller de son engourdissement. Elle ne jeta pas un seul regard par la vitre, même lorsque fut passée l'humidité brûlante des plantations et que le train eut traversé le champ de coquelicots où se dressait encore la carcasse carbonisée du galion espagnol, pour déboucher ensuite sur le même rivage à l'air diaphane et à la mer écumante et sale où, bientôt un siècle auparavant, étaient venues échouer les illusions de José Arcadio Buendía. À 5 heures de l'après-midi, elles arrivèrent à la dernière station du Marigot et Memme, pour imiter Fernanda, descendit du train. Elles montèrent dans une petite voiture qui ressemblait à une énorme pipistrelle tirée par un cheval asthmatique et traversèrent la cité désolée en empruntant d'interminables rues rongées par le salpêtre, entre lesquelles se faisaient entendre des exercices au piano tout pareils à ceux qu'écoutait Fernanda durant les heures de sieste de son adolescence. Elles s'embarquèrent sur un bateau de la navigation fluviale dont la grande roue en bois faisait un bruit de déflagration et dont on voyait les aubes métalliques rongées par l'oxyde flamboyer comme la gueule d'un four. Mémé s'enferma dans la cabine. Deux fois par jour, Fernanda venait déposer un plateau de nourriture près de son lit et deux fois par jour devait le remporter sans qu'elle y eût touché. Non que Mémé eût résolu de se laisser mourir de faim, mais la seule odeur des mets la dégoûtait et son estomac refusait de garder jusqu'à l'eau qu'elle buvait. Elle-même ignorait alors que sa fécondité avait déjoué les cataplasmes à la moutarde, tout comme Fernanda ne devait l'apprendre qu'un peu moins d'un an après, quand on lui amena l'enfant. Dans l'atmosphère suffocante de la cabine, rendue malade par la vibration des cloisons métalliques et l'insupportable odeur de boue que brassait la roue du navire, Mémé finit par se perdre dans le décompte des jours. Beaucoup de temps s'était écoulé lorsqu'elle vit le dernier papillon jaune se déchiqueter contre les pales du ventilateur. Et elle accepta comme une vérité irrémédiable que Mauricio Babilonia fût mort. Pourtant, elle ne se laissa pas vaincre par la résignation. Elle ne cessa de penser à lui durant la pénible traversée à dos de mulet qui leur fit parcourir le haut désert hallucinant où s'était jadis perdu Aureliano le Second à la recherche de la plus belle femme qui se vit sur Terre. Ni quand elles gravirent la cordillère en empruntant les sentiers des Indiens pour pénétrer dans la cité lugubre dont les ruelles caillouteuses et escarpées retentissaient du glas d'airain de 32 églises. Elles dormirent cette nuit-là dans la demeure coloniale abandonnée, sur des planches que Fernanda disposa à même le sol d'une chambre envahie par les ronces, se protégeant avec des lambeaux de rideaux qu'elles arrachèrent aux fenêtres et qui tombaient en miettes chaque fois qu'elles se tournaient. Mémé apprit où elle se trouvait en voyant passer, dans l'épouvante de l'insomnie, le gentilhomme vêtu de noir qu'on avait apporté à la maison dans un coffre plombé, un lointain réveillon de Noël. Le lendemain, après la messe, Fernanda la conduisit jusqu'à un édifice sinistre que Mémé reconnut aussitôt en se rappelant comment sa mère avait coutume d'évoquer le couvent où elle avait reçu son éducation de reine. Et elle comprit dès lors qu'elles étaient arrivées à destination. Tandis que Fernanda s'entretenait avec quelqu'un dans le bureau voisin, elle dut rester dans un salon échiqueté de grandes peintures à l'huile représentant des archevêques de l'époque coloniale, tremblante de froid à cause de la toilette d'étamine à petites fleurs noires qu'elle portait encore et de ses rudes brodequins boursouflés par le gel des hauts plateaux. Elle demeurait plantée au milieu du salon, songeant à Mauricio Babilonia, dont les rayons de lumière jaune des vitraux, quand sortit du bureau une novice d'une grande beauté, portant sa petite valise avec les trois toilettes de rechange qu'elle contenait. En passant près de Mémé, elle lui tendit la main sans même s'arrêter. « Allons-y, Renata, » lui dit-elle. Mémé lui prit la main et se laissa conduire. Fernanda l'aperçut pour la dernière fois, tâchant de régler son pas sur celui de la novice, alors que venait de se refermer sur elle la herse de fer du cloître. Elle pensait encore à Mauricio Babilonia, à son odeur d'huile et aux papillons qui l'environnaient, et elle continuerait d'y penser chaque jour de sa vie jusqu'à cette aube d'un automne encore éloigné, où elle mourrait de vieillesse, sous une autre identité que la sienne, et sans avoir prononcé une parole dans quelque ténébreux hospice de Cracovie. Fernanda s'en revint à Macondo dans un train protégé par des policiers en armes. Au cours du voyage, elle remarqua la nervosité des passagers. Les préparatifs militaires dans les villages traversés par la ligne de chemin de fer, cette raréfaction de l'air qui accompagne la certitude que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Mais il lui fallut attendre d'arriver à Macondo pour avoir de plus amples renseignements, quand on lui raconta que José Arcadio le Second était en train d'inciter les travailleurs de la compagnie bananière à se mettre en grève. « Il ne nous manquait plus que ça, » se dit Fernanda. « Un anarchiste dans la famille !» La grève éclata deux semaines plus tard et n'eut pas les conséquences dramatiques qu'on craignait. Les ouvriers souhaitaient ne plus être astreints à couper et embarquer les régimes de bananes le dimanche, et cette réclamation parut si légitime que le père Antonio Isabelle lui-même plaida en sa faveur parce qu'il la trouvait conforme avec la loi de Dieu. Le triomphe de cette action, ainsi que d'autres qui furent menées au cours des mois suivants, sortit José Arcadio le Second de l'anonymat où il s'était effacé. Lui dont on avait l'habitude de dire qu'il n'avait été bon qu'à remplir le village de putains françaises. Par une décision aussi impulsive que celle qui lui fit vendre ses coques de combat dans le but de créer une compagnie de navigation extravagante, il avait renoncé à ses fonctions de chef d'équipe à la compagnie bananière pour prendre le parti des travailleurs. Très rapidement, on le signala comme l'agent de quelque conspiration internationale destinée à troubler l'ordre public. Une nuit, alors qu'il sortait d'une réunion secrète, toute la semaine avait été assombrie par de sinistres rumeurs, il échappa miraculeusement aux 4 coups de revolver tirés sur lui par un inconnu. Dans les mois suivants, l'atmosphère fut si tendue qu'Ursula elle-même s'en rendit compte dans les ténèbres où elle était confinée. Et elle eut l'impression de revivre cette funeste époque où son fils, Aureliano Buendía, venait d'empocher les petites pastilles homéopathiques de la subversion. Elle voulut parler à José Arcadio II pour le mettre au fait d'un tel précédent, mais Aureliano II l'informa que depuis la nuit de l'attentat, on ignorait où il avait élu domicile. « La même chose qu'avec Aureliano !» s'exclama Ursula. « C'est comme si le monde faisait des tours sur lui-même !» L'incertitude de ces journées n'atteignit point Fernanda. Elle n'avait presque plus de contact avec le monde extérieur depuis la violente altercation qu'elle avait eue avec son mari pour avoir disposé du sort de Mémé sans son consentement. Aureliano II était résolu à délivrer sa fille, avec l'aide de la police s'il le fallait, mais Fernanda lui exhiba des papiers prouvant que sa fille était entrée au cloître de son plein gré. Mémé les avait effectivement signés alors qu'elle se trouvait de l'autre côté de la herse de fer, et l'avait fait avec le même mépris avec lequel elle s'était laissée conduire jusque-là. Aureliano II ne crut jamais au fond de lui-même à la validité de ses preuves, comme il n'avait jamais cru que Mauricio Babilonia se fût introduit dans la cour pour voler des poules. Mais ces deux prétextes lui servirent à tranquilliser sa propre conscience, et il put ainsi retourner sans remords dans le giron de Petra Cotes, auprès de laquelle il eut tout loisir de reprendre ses fêtes bruyantes et ses éhontéripailles. Étrangère à l'inquiétude du village, sourde aux terrifiants pronostics d'Ursula, Fernanda mit la dernière main à son plan, désormais fin prêt. Elle écrivit une longue lettre à son fils José Arcadio, qui allait déjà recevoir les ordres mineurs, l'y informant que sa sœur Renata, atteinte de fièvre jaune, avait rendu l'âme dans la paix de Notre Seigneur. Puis elle chargea Sainte Sophie de la Piété de s'occuper d'Amaranta Ursula et s'attacha à remettre de l'ordre dans sa correspondance avec les médecins invisibles, perturbés par les contretemps qu'avait occasionné Mémé. Elle n'eut rien de plus pressé que de fixer la date définitive de l'intervention télépathique qui s'était trouvée retardée. Mais les médecins invisibles lui répondirent que ce n'était guère prudent tant que durerait le climat d'agitation sociale à Macondo. Elle était si impatiente et si mal informée qu'elle rédigea une autre lettre pour leur expliquer qu'il n'y avait rien de semblable à ce prétendu climat d'agitation, mais que tout était dû aux extravagances d'un beau-frère à elle, dont le syndicalisme était actuellement la toccade, comme autrefois l'avaient été les combats de coqs et la navigation. Ils ne s'étaient pas encore mis d'accord quand arriva ce mercredi torride, où vint frapper à la porte de la maison une vieille religieuse, lance d'une corbeille accrochée au bras. En lui ouvrant, Sainte Sophie de la Piété crut qu'il s'agissait d'un cadeau et voulut la débarrasser de la corbeille couverte d'un ravissant napperon de dentelle, mais la religieuse l'en empêcha car elle avait pour instruction de la remettre personnellement et dans la plus grande discrétion à Doña Fernanda del Carpio de Buendía. C'était le fils de Mémé. L'ancien directeur de conscience de Fernanda lui expliquait dans une lettre qu'il était né 2 mois auparavant et qu'on s'était permis de le baptiser du nom d'Aureliano, comme son grand-père, car la mère, invitée à faire part de ses volontés, n'avait pas desserré les dents. Fernanda s'insurgea en elle-même contre cette mauvaise farce du destin, mais trouva assez de force pour n'en rien laisser paraître devant la religieuse. « Nous dirons que nous l'avons trouvé flottant dans cette corbeille, » fit-elle en souriant. « Personne ne le croira, » répondit la religieuse. « Si on l'a cru dans les Saintes Écritures, » rétorqua Fernanda, « je ne vois pas pourquoi on ne me croirait pas moi aussi. » La religieuse déjeuna à la maison en attendant le passage du train qui devait la reconduire et, aussi discrète qu'on lui avait demandé de l'être, ne fit aucune allusion à l'enfant. Mais Fernanda continua de voir en elle un témoin indésirable de sa honte et regretta que se fût perdu la coutume médiévale d'étrangler tout messager porteur de mauvaises nouvelles. C'est alors qu'elle décida de noyer l'enfant dans la citerne dès que la religieuse s'en serait allée. Mais elle n'eut pas le cœur à exécuter son projet, et préféra attendre patiemment que l'infinie bonté de Dieu la libéra de cet encombrant fardeau.